Avoir raison avec Noam Chomsky. Troisième épisode, autocensure et propagande en démocratie.
Alors je devrais peut-être commencer par signaler une chose qui n'est jamais précisée. L'éloge selon lequel je serais soi-disant l'intellectuel le plus important au monde a en fait été repris par mon éditeur. Et ça, il faut toujours se méfier. Parce que la phrase est à l'origine tirée du New York Times. Mais ce qui vient juste après dans l'article, c'est, je cite, « Si tel est le cas, alors pourquoi écrit-il autant de bêtises sur la politique étrangère américaine ?» Et ça, ce n'était évidemment jamais repris. Mais enfin, sans cette deuxième partie, je me demanderais ce qui ne va pas dans mon travail.
On sait de Noam Chomsky qu'il ne regarde pas la télé, il écoute peu la radio et essaie parfois de se brancher sur BBC World Service. En revanche, il lit beaucoup la presse. Ses amis du monde entier lui envoient continuellement des articles qu'il compulse et archive scrupuleusement, comme il le fait de tous les titres que compte la presse américaine, avec un intérêt plus personnel quand il existait encore sous ce nom pour le très libéral International Herald Tribune. Si je ne devais lire qu'un seul journal, avait-il dit un jour, ce serait celui-là. De ses lectures et recensions, Noam Chomsky a fait un livre coécrit avec Edward Herman et paru en 1988 sous le titre La fabrication du consentement, réédité et complété en 2002 et qui reste une référence pour une partie de la gauche qui veut comprendre les mécanismes de production des savoirs légitimes ou considérés comme tels. Chomsky n'aime pas dire qu'il a construit une théorie pour des considérations aussi banales, je le cite. Il préfère parler de cadre de réflexion et s'attarde sur les structures de propriété des médias, lesquels médias jouent d'après lui le rôle de serviteurs des puissants groupes qui les financent. Seuls les médias en démocratie l'intéressent parce que la propagande y est d'après lui plus crédible et efficace que dans les dictatures. Et à tous ceux qui l'accusent d'encourager au complotisme, il prévient d'emblée que ce serait une attaque trop commode. Bonjour Henri Malheur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de l'invitation.
Vous avez longtemps été enseignant de philosophie, puis maître de conférences en sciences politiques, fondateur en 1996 d'Acrimed, Action Critique Média, et vous vous êtes donc pendant plus de 20 ans consacré à observer et critiquer les médias français. Est-ce que vous diriez que vous avez sur les médias une approche chomskienne ?
Non, je ne dirais pas ça. Acrimed est une association qui cumule des savoirs théoriques, c'est-à-dire qui s'adosse à la sociologie et à l'économie des médias, des savoirs professionnels fondés sur l'expérience des journalistes et des salariés des médias membres de notre association et des savoirs militants. Parmi les savoirs théoriques, peut figurer pour certains d'entre nous l'œuvre de Chomsky, mais tous les adhérents ne sont pas sommés de lire 600 pages. Bien, d'Edward Herman et de Noam Chomsky. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nombre de nos critiques et de nos analyses convergent, du point de vue de la démarche au moins, avec celle de Chomsky. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous ne sommes pas plus chomskiens que bourdieusiens que n'importe quoi. Nous puisons à toutes les bonnes sources et ça suffit à notre bonheur.
Alors, d'autant que il faut bien expliquer et rappeler que les contextes sont très différents, notamment en Europe, en France, la prédominance des médias publics rend très différente votre aussi analyse, j'imagine, et critique des médias.
Oui, enfin, si c'était ça la seule différence, le problème c'est que les principaux médias publics ont tendance à se battre avec les mêmes armes et sur le même terrain que les médias privés. Je pense évidemment aux grands médias audiovisuels. Ça ne change pas grand-chose sur le fond. Sur le fond, ça ne change pas grand-chose.
Bon, il y a débat, on y reviendra évidemment. Henri Malheur, les usages français de Chomsky diffèrent aussi par leur style pamphlet. Acrimed manie beaucoup une très belle plume. Déjà, on ne peut pas dire que Chomsky est une très belle plume. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, il n'est pas très ironique non plus. Acrimed manie plus volontiers l'ironie.
Il manie le sarcasme avec délicatesse.
Comme dans cet extrait qu'on a entendu au tout début. Alors, il a surtout, pour parler de sa démarche à Chomsky, alors, quand il écrit la la fabrication du consentement. On est dans les années 80 aux États-Unis. Les 29 plus grands groupes contrôlent alors à eux seuls plus de la moitié de la presse écrite, la quasi-totalité des radios, chaînes, magazines, éditions et productions cinématographiques. Et la théorie de Noam Chomsky, elle est d'abord basée là-dessus, sur des questions de capitalisme et de propriété.
C'est plus complexe. À mon avis, c'est plus complexe.
L'ouvrage, c'est toute la première partie.
Voilà, l'ouvrage qui nous sert de référence, il y a une centaine de pages consacrées à l'élaboration d'un modèle de propagande. Peut-être faut-il résumer en quelques mots de quoi il s'agit pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas lu Noam Chomsky. Et dans ce modèle de propagande, il est construit à partir de l'analyse de 5 filtres. Évidemment, la concentration et la financiarisation la plus lucrative possible des grands médias, ce que vous avez mentionné. La régulation par la publicité, la pression qu'elle exerce sur les programmes et sur l'information, pour le dire dans une langue qui n'est pas celle de Chomsky, mais qui peut convenir, la tendance à, à donner raison à l'audimat et à l'audience conçue en termes essentiellement quantitatifs pour des publics ciblés par les publicitaires. Un troisième filtre, qui sont les sources d'information. À quoi s'alimentent les principaux médias? Et donc il fait une analyse de la situation américaine de ce point de vue, mais qui n'est pas sans rapport avec la situation française. Et enfin, dans cet ouvrage de 88, et qui pour cette raison date un peu, l'anticommuniste. On pourrait dire la même chose sur, je sais pas, le fanatisme islamique aujourd'hui, enfin bref, ce qui constitue le consensus dominant.
Alors, pardon, parce que vous avez évoqué plusieurs filtres, 5 en tout, et les premiers sont intéressants, il faut y passer un tout petit peu de temps, notamment parce qu'on a parfois l'impression aujourd'hui que Chomsky est un théoricien un peu à la truelle sur les médias, en disant par exemple sur la sélection du personnel. Les journaux sélectionneraient un personnel politiquement aux normes, qui pense ce qu'il faut penser, ayant intériorisé un sens commun de la profession, s'étant adapté aux contraintes des propriétaires, et disant notamment, il cite un journaliste, Marc Fishman, par un journaliste, un penseur, Marc Fishman, qui dit « Un journaliste tiendra les allégations d'un responsable politique, non pour de simples allégations, mais pour des faits crédibles et établis. » Bon, c'est un peu prendre les journalistes pour des imbéciles, il faut dire que on peut se demander pourquoi la question d'indépendance, Chomsky lui-même l'incarne en travaillant au MIT, pourquoi des journalistes qui travailleraient dans un grand groupe, avec certes ses propres intérêts financiers, ses éventuelles accointances avec le pouvoir, pourquoi les journalistes pris individuellement ne seraient pas capables d'être aussi indépendants dans la pratique de leur métier que ne l'était Chomsky, militant anti-guerre mais enseignant dans l'institution MIT très proche du complexe militaro-industriel.
Bonne question. Écoutez, c'est peut-être la lacune la plus importante de la pensée de Chomsky telle que je la connais, parce qu'il a énormément écrit et je n'ai pas tout lu, je dois l'avouer. C'est la sociologie des journalistes et des pratiques journalistiques. Cela étant, il est vrai que les filtres qui lui permettent d'établir un modèle de propagande ont plusieurs la démarche a plusieurs intérêts, dont de mettre un terme à un certain nombre de légendes sur l'indépendance des journalistes. Tout n'est pas légendaire dans cette affaire, mais la légende, c'est celle qui laisse penser que les journalistes vivraient en état d'apesanteur social, d'apesanteur politique, d'apesanteur institutionnel, bien, alors que, comme d'ailleurs nombre de professions, à commencer d'ailleurs par les enseignants d'université, dont je suis, bon, nous subissons un certain nombre de conditionnements. Et ce qui est vrai sans doute des journalistes américains l'est également des journalistes français. Vous connaissez des pigistes qui ne sont pas plus ou moins contraints d'adapter ce qu'ils lisent aux exigences de leur rédaction en chef?
Écoutez, moi je suis pas pigiste, mais on est tous intermittents du spectacle et précaires dans cette radio, vous le savez, et personne ne m'a interdit de vous inviter, par exemple,
non,
Henri Malheur.
Sûr.
Alors vous êtes un des plus grands critiques des médias.
Grand, n'exagérons rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des illusions sur l'indépendance des journalistes. Que chaque journaliste pris individuellement, confronté à son clavier ou à son micro, fasse à peu près ce qu'il veut, sans que le propriétaire des médias intervienne directement pour lui dicter ce qu'il a à dire, si c'est ça l'indépendance des journalistes, En gros, ça va, encore qu'il y a des cas récents en France, pas que je pense à Bolloré, d'intervention directe sur la ligne éditoriale et sur la pratique de certains journalistes qui se font exclure et censurer.
Et avec des journalistes qui partent d'eux-mêmes aussi à Europe 1, beaucoup ont pris la décision de partir.
Voilà, n'acceptant plus, question de dignité élémentaire, de servir de paillasson aux propriétaires des médias. Mais la question de l'indépendance des journalistes, c'est pas une question d'indépendance individuelle, c'est un problème de dépendance collective. Et ce que met en évidence la démarche de Chomsky, si ce n'est le détail de son analyse, ce qu'il met en évidence, c'est certaines formes de dépendance collective.
Collectif et parfois systémique, le terme est employé. Ce qui a été reproché à Noam Chomsky, c'est que son économisme, sa théorie d'abord basée sur le comportement et la production des médias par leur nature industrielle, cette économie se teinte parfois de complotisme. Quand Chomsky parle d'une orientation structurelle systématique, un système de marché dirigé dont les ordres viennent du gouvernement.
Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, je récuse l'accusation d'économisme. L'un des intérêts de Chomsky, c'est justement, puisqu'il énonce 5 filtres, que tous ces filtres ne sont pas strictement économiques. Dans le monde des médias, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Et d'une certaine façon, c'est-à-dire à sa façon, Chomsky tient compte de ça. Quand il analyse les filtres constitués par les sources des journalistes ou des principaux responsables de rédaction, les sources en question sont des sources institutionnelles qui n'ont rien à voir de façon directe avec l'économie.
Mais sources que l'on croise toujours, c'est notre travail, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, on croise nos sources.
Oui, vous êtes sûr?
Vous savez, Henri Malheur, que j'ai fait mes études à l'IUT de Tours. Et avant même la fin de la première semaine, on avait tous lu, par conscience professionnelle, Les petits soldats du journalisme de François Ruffin.
Ah,
tous.
Saine lecture.
Mais vraiment tous.
Saine lecture.
Ne serait-ce que pour savoir où on mettait les pieds et comment notre métier, notre futur métier, était critiqué, remis en cause, remis en question.
Oui, mais il y a un deuxième point sur lequel je veux m'attarder. Je vous ai dit que l'un des intérêts de la démarche de Chomsky, c'est d'en finir avec des légendes hagiographiques, d'ailleurs, sur l'indépendance des journalistes, que je ne récuse pas totalement, mais enfin, l'indépendance des journalistes... Il y a une dépendance structurelle des journalistes, ce qui ne veut pas dire que tous les journalistes sont malhonnêtes et font n'importe quoi, évidemment. Enfin, au mieux le dire, par le temps qui court. Non, ce que je récuse, c'est l'histoire du complotisme. Ce n'est pas vrai. Au contraire, le deuxième intérêt de la démarche de Chomsky, c'est de mettre en évidence que ce sont des phénomènes institutionnels et structurels qui conditionnent les manipulations médiatiques. Non, et pas du tout la volonté individuelle qui procéderait des filtres en question. Ce sont des filtres institutionnels pour la plupart d'entre eux. Les manipulations ne procèdent pas quand elles existent, et elles existent, on pourrait en donner des dizaines d'exemples, ces manipulations sont justement efficaces en raison des contradictions, des contraintes et des conditionnements structurels qui pèsent sur l'univers des médias. Je vais vous en donner un seul exemple qui n'est pas tiré de Chomsky d'ailleurs. Quand, en pleine guerre du Kosovo, des médias accréditent l'existence d'un plan fer à cheval d'extermination des albanophones, bien, il succombe à une manipulation intentionnelle venant, si mes souvenirs sont exacts, du gouvernement allemand.
Bien. C'était Schröder à l'époque.
C'était Schröder, c'était même Joschka Fischer.
En tout cas, c'était une thèse de l'OTAN, il faut dire en quelques mots. Le plan fer à cheval, c'était un plan selon lequel les autorités serbes avaient pour objectif de vider le Kosovo de toute sa population albanaise.
Oui, c'est une invention, comme les armes de destruction massive enterrées dans le sous-sol irakien. Ça, ce sont des manipulations intentionnelles venant des gouvernants.
Mais pas de tous les médias. Le Monde et le Figaro, à l'époque, remettaient en question à chaque fois que l'OTAN ou que le représentant de la mission de l'OCDE, l'OFCE sur place, leur donnait des informations, notamment sur le massacre de Ratchak au Kosovo, dont Chomsky parle dans son livre. Le Monde, le Figaro, en tout cas en France, remettaient en cause la version officielle ou la questionnaient.
Oui, mais ils n'ont pas mis en cause la version officielle, ça, entre autres choses qu'ils n'ont pas remises en cause, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu l'existence du plan fer à cheval. Si mes souvenirs sont exacts, il y a même eu un titre de une du Monde, qui n'est pas le média le plus scandaleux que je sache.
Qui n'était peut-être donc pas le titre choisi par le correspondant sur place.
C'est possible, c'est même probable. Non, mais je veux insister sur cet aspect. Des manipulations intentionnelles existent, mais Chomsky n'explique pas du tout les manipulations médiatiques par les intentions d'un certain nombre d'acteurs qui y ont recours. En revanche, il explique pourquoi certaines manipulations intentionnelles trouvent un écho dans les mondes des médias. Je pourrais donner d'autres exemples, si vous voulez.
Ce que vous voulez dire, c'est que dans toutes les guerres, les autorités, toutes les autorités, quel que soit le camp, mentent pour convaincre les opinions publiques et à charge après aux médias de s'en saisir ou pas, de le questionner, de le remettre en question, d'aller faire des reportages pour essayer de confronter ces informations.
Il arrive qu'ils le fassent, mais ils ne le font pas toujours. Je vais vous donner un deuxième exemple, toujours tiré. Je ne sais pas si Chomsky explique ça, parce que je n'ai pas lu ce qu'il a écrit sur le Kosovo. Mais je vous donne un deuxième exemple très simple.
Alors ça d'ailleurs, entre parenthèses, on ne peut pas rentrer dans ces détails, c'est vraiment très dense, mais les chercheurs qui travaillent sur les Balkans reprochent souvent à Chomsky une vision très binaire, c'est-à-dire les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, donc Milosevic était peut-être pas si pire que ça, même si quand on lit Chomsky dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que
mais
ça.
On y reviendra sans doute. Je pense que cette lecture-là est une confirmation du modèle de propagande élaboré par Chomsky. C'est-à-dire que manifestement, pour rester modéré, mais j'ai pas toujours envie d'être modéré sur cette question, il y a un certain nombre d'acteurs publics, journalistes ou pas, qui ne comprennent rien à ce que fait Chomsky. Chomsky n'a jamais nié les massacres d'où qu'ils viennent, etc. Il n'a pas relativisé quoi que ce soit. Ce n'est pas son propos.
On va en parler.
J'y reviendrai.
Alors, vous vouliez nous donner un autre exemple?
Non, mais je peux donner un autre exemple s'agissant du Kosovo. Quand Jean-Pierre Pernaut, sur TF1, explique que 500 000 Kosovars ont disparu et que vraisemblablement 100 000 d'entre eux sont déjà morts au moment où des bombardements sur l'OTAN, sur quoi ils se fondent? Ils se fondent sur les rumeurs que font circuler les otanesques. Bien, voilà. Il y a une forme de crédulité. Recouper les sources, bien, comment dire, ce qui fait partie de la pratique journalistique ordinaire. Oui, mais quand les sources sont quasiment exclusivement institutionnelles et gouvernementales, ça pose un petit problème quand même.
Bon, c'est vrai que le Kosovo était un territoire à l'époque complètement fermé, c'était très difficile de savoir ce qui s'y passait et même aujourd'hui les chercheurs et journalistes les plus compétents et qui ont le plus cherché à savoir la vérité admettent qu'il y a des zones d'ombre et des choses, mais qu'on ne peut pas mettre tout sur le même plan. Donc c'est à ça que je voulais en venir, Henri Malheur, vous avez commencé à évoquer le Cambodge. Donc on récapitule, Noam Chomsky explique qu'il y a plusieurs filtres par lesquels et produite la fabrication du consentement. Le cinquième filtre, c'est l'anticommunisme. La fabrication du consentement, d'ailleurs, c'est une expression qui a été utilisée pour la première fois, non pas par Chomsky, mais par Walter Lippmann dans les années 20. Bon, c'est pas lui qui a inventé ce terme. Bref, l'anticommunisme, on est en pleine guerre froide. Donc lui, il dit, à chaque fois que des massacres sont perpétrés par des régimes communistes, on les présente comme tel des massacres et pas lorsqu'il s'agit de massacres commis par les Américains. Donc c'est là qu'on en vient au Cambodge. D'abord, rappelez-nous quel est le fond de l'affaire, ce que Noam Chomsky, dans sa fabrication du consentement, explique sur le Cambodge.
Alors, parmi les études de cas, je vais partir de là, parmi les études de cas qui sont les études de cas proposées par les deux auteurs, il y a les victimes dignes d'intérêt et les victimes indignes d'intérêt. Et il met en évidence ça à propos de plusieurs cas, mais notamment un, qui est l'assassinat absolument terrible du prêtre Popielouchko,
bien, en Pologne,
auquel les grands médias américains ont consacré énormément d'articles, à la fois en quantité et en qualité, des recherches, des enquêtes, etc. Et dans le même temps, sont restés quasiment silencieux sur les assassinats perpétrés par les dictatures latino-américaines.
Guatemala,
bien, au Nicaragua, c'est un peu partout en Amérique latine. Bien. De quoi s'agit-il en l'occurrence? Il ne s'agit pas de relativiser. Il s'agit de mettre en évidence la façon dont on fonctionne les filtres médiatiques. Ce qui est vrai dans ce cas particulier de l'évêque ou de l'archevêque, je me souviens plus très bien de polonais, bien, est vrai de la situation au Cambodge. sur quoi se fonde Chomsky ? Chomsky se fonde sur un rapport établi par des Finlandais, publié en 1984, et qui analyse, ce sont les termes de ce rapport, la décennie du génocide. Et dans cette décennie du génocide, il y a, selon Chomsky, ou peut-être selon ce rapport que je n'ai pas lu, bien trois phases. Une première phase, qui est la phase des bombardements américains sur le Cambodge, avec le lot de massacres et de destruction même de l'ensemble des infrastructures sociales et politiques de ce pays.
Ordonné par Nixon et Kissinger, 550 000 à 750 000 morts selon les estimations.
Les estimations de l'époque, hein, nous sommes en 1988, elles ont peut-être été réactualisées.
Non, ce sont les actualisations d'aujourd'hui, mais il y a des zones d'ombre.
Or, les grands médias américains, je n'ai pas souvenir de ce qu'ont fait les médias français sur cette phase-là du génocide, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la destruction d'un peuple, sont restés silencieux. En revanche, ils ont focalisé l'attention sur la deuxième phase du génocide que Chomsky n'a jamais nié, contrairement à une affirmation que j'ai lue sous la plume alerte d'Alain Finkielkraut, bien, n'a jamais nié l'existence des atrocités et des massacres qui ont été perpétrés par le régime de Pol Pot.
Et dès le début, hein, d'ailleurs, il dit, il ne fait aucun doute que des atrocités abominables ont été commises dans des proportions épouvantables, il le dit dès le début.
Voilà. Il établit une comptabilité de l'époque et sans doute une comptabilité macabre, bien, mais qui donne des échelles de grandeur par rapport à la première phase, sont, dit-il, du même ordre.
À l'époque. Aujourd'hui, voilà. On sait que c'est 2 millions.
Voilà. Donc. Bon. Mais voilà, c'est ça qu'il veut mettre en évidence. Et il distingue une troisième phase, qui est la phase de l'invasion vietnamienne au Cambodge, dans laquelle le gouvernement américain a soutenu les résidus des polpotistes réfugiés en Thaïlande.
En 78, pour contrer le Vietnam.
Pour contrer le Vietnam, avec les effets, évidemment, que cette intervention vietnamienne a pu avoir sur la population cambodgienne. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il ne cherche ni à nier, ni à relativiser. Il cherche à mettre en évidence des déformations de l'information qui procèdent de partis pris, qui sont des partis pris conditionnés par les différents filtres qui font l'objet du modèle de propagande.
Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir fait preuve d'un certain confusionnisme, parce que génocide, c'est quelque chose d'organisé, et le génocide Khmer Rouge a été reconnu comme tel. Les bombardements aériens pour... épouvantables qu'ils le furent, n'étaient pas quelque chose de construit avec une idéologie. Il fallait pas, les États-Unis n'avaient pas pour intention de faire mourir tous les paysans cambodgiens.
Écoutez, quand il s'agit de guerre, l'intention compte assez peu. Hein. Ce qui compte, ce sont les effets. Il s'est passé dans la première phase du génocide, ce sont les Finlandais qui parlent de 10 ans de génocide. Hein. Il s'est passé ce qui s'est passé au Laos. Le gouvernement américain, suivi par les médias américains, si j'en crois l'analyse de Chomsky, ont essayé d'expliquer que les bombardements du Cambodge étaient des bombardements qui étaient destinés à empêcher les infiltrations venues du Nord-Vietnam. Or, en vérité, il s'est agi de bombardements qui ont détruit le Laos pour de longues années. Voilà, c'est ça le propos de Chomsky.
Ce qu'il dit aussi, Chomsky, c'est que ces bombardements ont contribué à faire grossir les rangs des Khmers Rouges, qui passent de 4000 hommes en 70 à 70 000 hommes juste avant de prendre le pouvoir. Et plus tard, dans Responsabilité des intellectuels notamment, il s'est longuement expliqué, a longuement travaillé sur l'Indonésie, les massacres en Indonésie qui avaient lieu quelques années plus tôt, mais aussi le Timor oriental en 75, donc au même moment que l'année où les Khmers Rouges prennent le pouvoir, en disant, regardez, il se passait ça en même temps ou presque et on n'en parlait pas.
Voilà. Et c'était une application du principe des victimes dignes d'intérêt et des victimes indignes d'intérêt. Sont indignes d'intérêt les victimes de massacres perpétrés par des gouvernements soutenus plus ou moins directement par les États-Unis. C'est ça que veut mettre en évidence Chomsky. Il n'est pas dans une optique de relativisation bien des massacres qui ont été perpétrés par le régime de Pol Pot comparé à ce qui a été fait à Timor. C'est un non-sens. Et j'ai indiqué tout à l'heure que cette réception hein, fondée sur des lectures extrêmement hâtives de Chomsky. Il faut se les taper, si j'ose dire, les 600 pages. Hein. Et quelques
autres. Ça veut dire très précis, hein, c'est vraiment voilà, très chiffré, daté.
La réception par un certain nombre d'intellectuels français, journalistes ou non, est une réception qui confirme le modèle de propagande. Je vais essayer d'être aimable, ça m'arrive. Bien, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que fait Chomsky. Ils sont tellement convaincus que le seul problème en matière de médiatisation, c'est de confirmer les massacres au Cambodge, point, perpétrés par le régime de Pol Pot, que tout le reste n'entre pas dans leurs oreilles.
Mais si je peux me permettre, il y a aussi beaucoup de grands admirateurs de Chomsky qui ne l'ont pas lu ni compris. Dans les deux camps, entre guillemets, il y en a beaucoup qui l'ont lu et pas compris. Lu ni compris.
Oui, mais ceux qui soutiennent Chomsky sans l'avoir lu n'ont pas un accès quasi illimité aux grands médias français. Mais je peux en porter témoignage.
Bon, vous êtes ici aujourd'hui, Henri Malheur.
Oui. Alors, l'exception ne fait pas la règle. Hein.
Puisque vous parlez de la réception des messages, pourquoi les lecteurs, téléspectateurs, auditeurs se laisseraient berner? On parlait hier, dans l'épisode d'hier, avec Pierre Jacob, de la théorie du langage de Chomsky, de la créativité dont il dit que nous savons faire preuve dans le langage. Pourquoi on ne serait pas, nous, capables d'utiliser cette créativité pour lutter contre ce consentement? Pourquoi Chomsky part du principe que croyons tout ce qu'on nous dit.
J'ai évoqué tout à l'heure ce qu'on peut considérer comme un point faible de Chomsky, c'est-à-dire l'absence d'analyse de sociologie des journalistes et du journalisme. Une seconde lacune. Je dirais quelques mots sur ce que signifient ces lacunes. Une deuxième lacune qui est des effets des médias sur les publics. Mais il prend soin de dire, bien, qu'il ne croit pas un seul instant que l'effet des médias sur les publics soit, j'utilise des termes qui ne sont pas les siens, mais qui reviennent aux mêmes, mécaniques, uniformes, etc. Il affirme même qu'ils ont surtout des effets sur les publics cultivés. Ça reste à démontrer, bien. Mais c'est vrai que cette analyse n'est pas faite. En revanche, pour revenir à votre question, que j'ai pas oubliée en cours de route, bien... Il souligne qu'il existe des espaces minorés d'une expression alternative qui ne consent pas aux grilles et aux effets du modèle de propagande.
Mais qui a explosé d'ailleurs avec Internet, et ça il ne l'a pas vu venir.
Si, en 2002. D'accord. J'étais frappé de ça parce que je croyais avoir vu avoir eu le souvenir qu'il n'avait pas pu ou voulu en tenir compte. Et bien, dans l'actualisation de 2002, nous sommes en 2002, pas en 2021, hein, en 2002, il commence à souligner les espaces qui sont ouverts, limités mais existants, à des médias indépendants et alternatifs qui ne sont pas conditionnés par les principaux filtres qu'il analyse dans le modèle de propagande. D'ailleurs, le point de départ... Dans son bouquin, est assez intéressant. Il essaie de mettre en évidence comment, historiquement, les médias indépendants qui avaient fleuri au XIXe siècle ont été peu à peu étouffés complètement par la montée en puissance des grands groupes et de toute la suite. Bien, c'est vrai que des espaces minorés et minoritaires se sont ouverts, bien, qui permettent une expression. D'abord parce qu'il y a, s'agissant de l'accès à Internet, il y a un faible coût qui permet à des acteurs qui ne disposent pas de financement publicitaire, de se fonder sur des abonnements, sur une certaine indépendance, au moins financière. Non, je pense qu'il n'a pas été totalement aveugle en 2002.
Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, en 2021, on peut aussi dire que s'il a pu y avoir aveuglement de la part des médias sur des interventions américaines, notamment en Amérique latine, parce que je crois que c'est vraiment un des sujets sur lesquels plus personne ne conteste Noam Chomsky aujourd'hui, eh bien, ces médias en sont revenus. L'Irak, l'Afghanistan sont autant de sujets sur lesquels, quand même, il y a un esprit critique. Bon, vous n'êtes pas forcément d'accord, Henri Malheur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez donc longtemps été enseignant de philosophie, maître de conférences en sciences politiques et membre fondateur d'Acrimed. Vous avez écrit avec Serge Halimi et Dominique Vidal du Monde Diplomatique ainsi que Mathias Raymond, l'opinion ça se travaille, les médias et les guerres justes. Et demain nous recevrons à ce micro la politiste Géraldine Mühlmann qui fait une autre lecture de la fabrication du consentement tout aussi nuancée. Merci beaucoup Henri Malheur. Avoir raison avec Noam Chomsky, cette émission est réalisée par June Loper. À la technique c'était Audrey Guélil.